Il semble que ce n'est pas possible d'être déjà arrivé en cette soirée du 9 juillet et d'entrevoir déjà la fin de ce camp familial où nous avons éprouvé ensemble la présence du Seigneur dès les premiers moments et nous le pensons jusqu'au dernier instant que nous passerons ensemble. Je devrais vous quitter demain soir, après la réunion, et nous voulons demander à Dieu qu'il nous bénisse d'une façon particulière dans cette soirée, où nous continuons le thème « Les œuvres de la foi ». Nous procéderons comme dans les autres soirées. Nous vous demanderons de partager ce que le Seigneur vous aura montré dans notre étude de ce matin sur le chapitre 4 de Jacques, ou si vous avez quelque chose à dire sur d'autres passages de cet épître qui nous a parlé tous ces jours, et que vous n'ayez pas pu vous exprimer dans les soirées précédentes, vous pouvez le faire aujourd'hui en pensant que vous aidez peut-être un frère ou une sœur. Puis, nous terminerons nos études sur les pères, la responsabilité et le privilège des pères, en vous parlant ce soir de l'apôtre Paul et de ses enfants. Parce que on peut être père spirituel lorsque l'on n'a peut-être pas reçu la vocation du mariage. Paul ne s'est pas desséché, mais il a été un père d'une multitude d'âmes, et nous verrons comment il comprenait sa vocation de père, et à travers Paul, nous recevrons, nous les pères naturels peut-être, des enseignements, comment nous devons agir avec nos enfants dans la chair, comme lui agissait avec ses enfants dans la foi. Et vous verrez que par l'exemple de Paul, nous autres, les pères, nous pourrons recevoir une instruction. Et nous considérerons aussi en quelques instants les enseignements que Jésus nous a donnés, lui qui n'était pas père selon la chair, mais qui, par son œuvre, a permis que nous soyons engendrés par la parole de la vérité. Et lui a parlé des pères, et en particulier d'un père, dans une parabole admirable. Vous l'avez deviné, celle qu'on appelle souvent la parabole de l'enfant prodigue, mais que j'aime avec d'autres appeler plus exactement la parabole du père. Parce que c'est surtout du père qu'il est question dans ce chapitre 15 de l'évangile de Luc. La parabole du Père, ce qu'est vraiment un Père. Nous ne nous lasserons jamais de méditer ce chapitre 15 de Luc, qui est employé si souvent pour l'évangélisation et qui a un message d'une portée extraordinaire. Voilà, nous allons vous donner la parole après avoir vécu peut-être quelque chose de tout à fait spécial. Depuis des années, je demande au Seigneur, permets que notre prédication ne soit pas simplement des mots, des phrases, mais une manifestation visible de l'Esprit de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ce soir, justement, en pensant à ses enfants et à ses mamans qui nous ont occupés, qui ont élevé leurs enfants, qui leur ont communiqué au fond ce qu'elles croyaient de toute cette tradition orale qui, puisqu'on n'écrivait pas encore, qui était transmise de père en fils, de mère en fille, de mère en fils. Eh bien, j'étais édifié profondément en pensant à cela. Et quand je suis arrivée, la première des enfants que j'ai rencontrés, elle était absolument en larmes, vous l'avez vu. Puis, elle avait une détresse dans ses yeux. J'ai perdu mes mots. C'était affreux de la voir, parce que c'était un drame pour elle. Puis je lui ai dit, mais c'était des lunettes de soleil. Non, mais bonnes. Et alors on voyait les parents derrière, on voyait au fond les frais, tout cela. Elle était comme désespérée et persuadée que c'était pas retrouvable. Et alors on est mis là, on est prédicateur. Alors qu'est-ce qu'on a? Des bonnes paroles. Console-toi, ma petite, ça peut se retrouver, ou je ne sais trop quoi. On est en plein dans Jacques. On va en paix, etc. Mais c'est pas les paroles qu'elle voulait, elle voulait les lunettes. Comprenez-vous? Et c'était ça. Et pas même qu'on dise, eh bien, écoute, ma petite, ne t'en fais pas, si on ne trouve pas tes lunettes, on fera une collecte. Hein, c'est les grands moyens. Pour que tu sois apaisé et que tes parents n'aient pas un fardeau, eh bien, on va faire une collecte et puis on te payera tes lunettes. C'est toujours des moyens, mais c'est pas ça. Et le Seigneur nous réservait mieux que cela. Mais j'ignorais totalement, parce que je m'en vais commencer mon histoire de Jean, de la mère de Jean surnommée Marc, Marie. Puis je me suis dit, mais faut la commencer par où elle commence. Parce que la première fois qu'il est parlé de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, c'est dans le chapitre 12 des Actes. Alors, j'avais relu le chapitre 12 des Actes, puis je me dis, bien, je dois commencer par l'histoire de Jacques, décapité. Et je me dis, mais ça colle drôlement avec hier, la mère de Jacques, c'était Salomé, hein. Alors, donc, il y avait un lien qui me permettait d'aller de la mère de Jacques et Jean à ce Jacques auquel on avait coupé la tête, alors que il avait demandé, enfin, selon sa mère, qu'il soit à la droite du Seigneur. Ben, il y a été très vite, auprès du Seigneur, mais pas comme il le pensait. Et puis, Pierre, lui, il était dans cette prison. Enfin, vous connaissez l'histoire, je vais pas la redire. Mais, c'est pour vous montrer comment le Seigneur conduit. On vient pas avec du tout plaqué, hein, mais on vient heure après heure, moment après moment, instant après instant. Puis j'ai pas pensé encore à ce que tu dis, bien, on va t'annoncer que tes lunettes sont perdues et puis peut-être quelqu'un les a déjà retrouvées. Et puis voilà, la réunion a commencé. Et puis en racontant l'histoire, tout à coup, bien, on arrive dans cette maison de Marie, mère de Jean surnommée Marc, où il y a des frères très importants de Jérusalem qui prient pour la délivrance de Pierre. Puis on prie pour la délivrance de Pierre. Mais est-ce qu'on y croit? Jacques a été décapité, Pierre est condamné à la décapitation, c'est demain matin que ça aura lieu. Puis les frères sont là à prier. Puis une petite servante, toute simple, rôde, qui en sont frappés pendant que les frères prient. Puis elle va à la porte, puis elle reconnaît la voix de Pierre. Et elle, tout de suite, elle a tellement de joie qu'elle court vers ses frères pour leur dire, mais rendez grâce au fond, il est là, il est derrière vous. Tu es folle. Moi, ça m'a parlé ce soir. Puis tout d'un coup, il y a eu comme une liaison qui s'est faite dans mon esprit. Je me dis, il faut finir maintenant par prier pour les lunettes. Comme ces gens priaient. Puis le Seigneur mettait à Jacques, justement, Jacques qui n'a pas la tête coupée, de descendre, et il était conduit là où se trouvaient les lunettes. Mais c'est quand même merveilleux. Et puis, on prie. Qu'est-ce que vous pensiez pendant qu'on priait pour les lunettes? Est-ce qu'on allait les retrouver ou pas? Au fond, nos sentiments, qu'est-ce qu'ils étaient? Et puis, vis-à-vis de la petite fille, on s'engageait drôlement. Hein, en disant, Seigneur, permets que ces lunettes soient retrouvées. Puis quand on dit Amen, les lunettes sont sur le nez de ce certain Jacques. Alors moi, j'ai été sûr qu'il aurait sa moustache dans le ciel. Parce que cet après-midi, on a vécu aussi des moments très bénis. Je m'excuse de vous avoir fait attendre en bas, dans le sous-sol, alors que vous auriez voulu nager dans l'eau. Mais si vous vouliez entendre le Don Vidal, eh bien, il fallait passer par là, parce qu'il était venu, vous avez vu tous en train d'acheter, puis il m'a dit, ça durera au moins un quart d'heure, hein, je viens dans un quart d'heure, mais je veux vous parler. Bon, alors, on a attendu, et puis lui, il a été pris par quelqu'un d'autre, alors il fallait que nous mettions en pratique l'épître de Jacques, avoir un peu de patience, même si on pensait, ah, qu'il serait beau dans l'eau. Alors, vous avez été un peu retardé, mais est-ce que ça valait la peine d'avoir été à Saint-Benoît-du-Lac? Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient contents? Vous avez l'impression que les enfants étaient contents? Oui. Non, mais ils avaient l'air heureux. En tout cas, ils sont bien conduits, et ils ont bien écouté, et il n'y avait aucun reproche à leur faire. Et je dois dire que Don Vidal m'a dit, vous ne pouvez pas savoir ce que ça va faire à mon cœur de voir que ça la touche. Il a été très touché par cette visite, et ne serait-ce que pour lui, qui passe par une certaine épreuve, il m'en a parlé, eh bien, ça a été une bénédiction, votre visite. Alors, merci d'avoir été ce que vous avez été aussi pour ces pères de Saint-Benoît-de-Lac. Alors, maintenant, nous prions. Dieu notre Père, oui, dans cette journée du 9 juillet, dans ce camp familial, tu nous as fait voir les œuvres de la foi. Nous te remercions parce que ce n'est pas simplement un thème que nous aurons étudié, mais nous avons vu les œuvres de la foi. Que si nous croyons que tu es un Dieu qui délivre, si nous croyons que quand tu parles et que nous obéissons, les chaînes tombent, eh bien, Seigneur, nous voulons te demander que cette journée du 9 juillet reste marquée dans nos cœurs. Et quand nous aurons peut-être d'autres difficultés, que nous puissions penser aussi à ce Pierre lié, qui ne pouvait pas bouger, qui était gardé par deux soldats, puis ta parole lui est donnée par l'ange, lève-toi, il ne regarde pas ses liens, il se lève, et les liens tombent. Seigneur Jésus, tu nous as montré que tes délivrances peuvent être rapides, que tes délivrances peuvent être immédiates, mais que c'est toujours nous qui manquons de promptitude pour croire. Oh, nous sommes souvent prompts à parler, mais nous sommes lents à croire. Donne-nous d'écouter et d'être prompts à croire, car tu peux tout, et qu'ainsi nos vies soient illuminées par des certitudes qui nous réjouissent et qui nous réconfortent. Tu sais les problèmes des uns et des autres. Et nous avons été touchés aussi de voir le cœur de Don Vidal s'émouvoir en apprenant certaines circonstances des uns ou des autres dans ce camp. Et nous te remercions pour cette unité aussi dans la prière. Nous sommes des hommes qui sont de même chair que les autres. Et nous te remercions de cette compassion que nous pouvons trouver chez d'autres. Merci de nous avoir montré cette unité spirituelle hors des cadres, hors des confessions, et de pouvoir se dire que dans le Québec, il y a encore des maisons qui cherchent à recevoir n'importe qui, quelle que soit sa confession ou sa religion, comme Jésus lui-même devrait être reçu. Que cette leçon qui a été donnée à nos enfants leur reste aussi, et que nous restions aussi positivement dans l'amour les uns pour les autres, reconnaissant des lumières que tu nous as données, mais ne jugeant pas les autres. Nous te le demandons du fond du cœur, et nous te remettons maintenant les témoignages qui vont suivre. Préside cette rencontre pour la gloire de ton nom, et veille sur nos enfants dans ton amour. Amen. Alors, la parole est à vous.
celui dont le frère qui est bien et qui ne sait pas commet un péché. En début de matin, c'est le péché par conviction. Mais moi, la réflexion que ça m'a apporté, il arrive dans des circonstances qu'on nous demande, de servir, qu'on nous demande quelque chose. Et là, on atteint. J'attends. Là, j'attends que quelqu'un vienne qui répond aux besoins qui a été demandé. Puis quand on a répondu aux besoins, à ce moment-là, je me dis à moi-même, au moment où elle s'est levée, je partais pour me lever, à me sauver, une bonne raison. Puis là, quand je dis à une autre, la personne à côté de moi, je dis, c'est pour me lever. Ah, c'est l'intention qui compte. Comme si l'intention pouvait, ça pouvait changer quelque chose. L'intention va se substituer. Ça m'a amené sur un autre point que pour moi, quand j'ai eu, qui m'était dans les problèmes, que je trouvais qu'il m'était destiné, que la paresse pouvait me conduire. C'est, n'aime pas le sommeil, de faire que tu deviennes pauvre. À ce moment-là, quand j'ai cru, j'étais sûre que ça m'a été délicé pour moi. Parce qu'à ce moment-là, je me trouvais bien. Je me trouvais bien, j'ai dit, en 15 minutes, 30-20 minutes, avant de me lever. Et là, ce qui arrivait, je m'endormais. Là, ma fille s'est réveillée. Puis je me réveillais à mes 34, puis j'ai tout le temps dit. Ah. Là, je m'enfilais. Demain matin, je vais me lever. Demain matin, le même scénario recommencé. Ah, je me suis emmené, je vais me porter. Et là, quand j'ai dit ça, je suis pas à 6 heures, je ne suis pas à 6 heures. Je n'aime pas le sommeil de peur que tu me viennes de vous pour faire un revient ici. Je vais m'en dire, il va le faire encore, je vous dis. Pour ça, ça m'a conduit sur un autre. Ça m'avait pensé à l'égoïsme. On aime notre petit confort. J'aime mon petit confort. J'aime pas. J'aime savoir ce que je m'en vais. Quand c'est trop incertain pour moi, ça me dérange. C'est que j'aime pas trop mes pieds, comme je l'ai déjà dit. Mais quand je pense au Seigneur qui a tout donné pour moi, et si je pense que très rarement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, les bénédictions que tu m'accordes, je suis pas tellement fière de moi que. Parce que présentement, pour moi, je me considère comme un enfant choisi. J'ai des problèmes comme tous les autres. Mais par contre, elle m'a tellement. J'ai des problèmes, mais j'en ai pas de problème. Et c'est pour la dire, c'est le même. Il y a un fait dans l'assemblée, ce que je vais. Il y a un pasteur, il est chez moi. Puis, je voulais savoir quelle sorte de personne c'était. Je me suis informée au niveau des autres. C'est la seule chose que les autres ont dit. Ah, pas de problème. C'est que je ne dis pas comment ça leur fait, c'est des problèmes pour que je n'ai pas de problème. C'est les autres les plus. Puis, ça m'a, là, j'ai obtenu une autre réflexion que ça. Je pense au problème. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Après, nous avons conçu encore celui qui recevra l'heure dans son travail est le frère de celui qui détruit. Après, dans le cantique, on dit la vigne, on est, la vigne est grande et les ouvriers sont plus nombreux. Dans le cantique des cantiques, la bien-aimée dit à son bien-aimé, en dernier à la terre, son bien-aimé. Elle rendait au point de faire appel le Seigneur, son bien-aimé. Elle dit, viens mon bien-aimé, sortons dans les champs. Nous verrons si la vigne pousse et si la fleur saute. La place, c'est le nom de Dieu, ça. Et avant, j'ai vu, j'avais été capable de voir. Et puis, je me sentais vraiment misérable. Sentez votre univers. Je me suis arrêtée sur la terre. Je me sentais misérable. Je ne peux pas m'endormir comme ça. En me sentant comme ça, ça y est. Je ne peux pas me sentir comme ça. C'est ce qu'il faut. Alors là, j'ai vu, je me sentais misérable. Parce que ça faisait quand même. L'enfant que j'avais voulu. La révolution était ici avec ce livre de l'enfant. J'ai trouvé des trésors de l'esprit. Ça l'avait tellement. Ça m'a tellement consolé. Je vous dis, je me suis endormie vraiment en paix. Puis cette nuit, je me suis réveillée. J'ai lu encore la révolution. Ça m'a donné une joie aujourd'hui. Je me suis levée. J'étais contente. Je me sentais plus désolée. Je ne veux pas vous prêcher ce que vous voulez dans une j'ai quelques versets, si ça peut vous aider. Quand j'ai dit ça, sentez votre misère. Je vais entendre des versets. Dans ça, c'est 4, le verset 7 qui dit « Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de l'esprit. » Le Père me voit travailler son bien-aimé. Il est tout belle, il est tout beau. Tout c'est ça. Vraiment. Ce verset-là, il c'est tout belle, mon ami. Il n'y a point en toi de l'esprit. C'est vraiment consolant. Et puis, j'ai vu aussi, quand on vient, on lit les versets, comment la bouche, hein, si on pense à mal, si c'est la faire, comment on peut faire du mal autour de nous. Et puis, il y a des beaux versets qui parlent de la bouche. Et puis, ça fait ça. Le verset 3, il dit, « Ses lèvres sont comme un fil cramoisi, et sa bouche est charmante. » Alors, juste ça, vraiment, c'est bien. Le verset 11, « Ses lèvres du fil de miel m'a fiancé. Il y a sur sa langue du miel et du lait. » Quand on voit comment on peut le transférer sur le fil de miel, vraiment, c'est beaucoup. Et puis, quand Jacques parle de s'approcher de Dieu, il s'approchera de lui. J'ai déjà donné ce verset-là à quelqu'un. Je me dis que, hier, c'est vrai que c'est pas mal pour moi. Après, j'ai dit de Dieu, il s'approchera de Dieu. Et puis, dans le sens des sensibles, je lui dis ceci. Ça fait deux, c'est c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vivait. C'est un peu plus loin, il dit, mon bien-aimé parle, il me dit, laisse-toi mon ami, ma belle et vieille. Alors, il vient vers moi, je vais penser que c'est un homme qui vient, qui me dit, si il vient, c'est à nous d'aller vers lui. Hein. C'est très beau. Mon bien-aimé me parle, il me dit, laisse-toi mon ami, ma belle et vieille. Je sais, le dos verset, bon. Je trouvais ça vraiment bon. Dans Jacques, le chapitre 3, quand je parle de la source. Mon sens. La source s'était jaillie par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Je parle de la source, hein, dans le chapitre de Jésus. Dans le chapitre 3. Le verset 2. Tu as un jardin fermé, ma sœur. Ça m'a rappelé vraiment l'année passée, comment notre jardin doit être fermé pour le Seigneur. Pas faire entrer d'autres choses dans notre vie que pour le Seigneur. Je sais pas si je m'exprime bien, là, mais. Tu as un jardin fermé, ma sœur, ma chante. Une source fermée. Ça me rappelait l'année passée. Et pour fermer, une fontaine s'élevait, faisait dans le jardin du fond des grenadiers, etc. Pour verser 15, une fontaine des jardins, une source de vie, de vie vive. Que mon bien-aimé entre dans son monde, et qu'il mange de ce qu'il fait. Encore, j'ai fait de la vie. Vraiment, c'est du bien. Je ne veux pas être longue. Je vais faire des trains. Je vais céder. J'entre dans mon monde. On va vraiment les connaître. Je viens de j'entre dans mon monde. C'est ça, j'en sais. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il se fait qu'ils sont toutes les familles de vie. Il sait prendre de soi mon bien-aimé, il sait déjà ce qu'on veut à moi. Puis en disant vraiment, j'ai trouvé que, vu qu'on parle des mamans, j'aime bien vous entendre parler aussi, parce que le mot mère, M-E-R-E, c'est comme la mère de la bien-aimée, il sait quoi mon père. On voit le mot mère, vu qu'on peut rentrer les mamans, le mot mère. Je ne serais pas capable de vous enseigner, mais ça m'a frappé sur cette fois le mot mère de Dieu. C'est ce que tu as parlé du Saint-Esprit, c'est vraiment important.
Vous voyez, c'est une esprit. On parle d'un esprit que la nous a montré, quand on a un autre esprit, ça nous donne une pensée, une esprit, une écorce, une console, une fumée. On voit le moment où on voit en même temps que c'est grave. Il y a des vies, des expériences qui avaient été là, on peut les vivre. Diane, tu verras sur le point, tout combien, ça fait le Seigneur à parler. Et elle a fait ce qui est bon, en ça, et ce qui est bon. C'est ça qui est merveilleux, c'est pas. Vous ne pouvez pas séparer le nouveau de la mort de l'ancien. Vous voyez la réponse à dire, c'est à dire, quand il est parti, c'est la cohésion, l'unité, les démons qui sont venus, bien, approchez-vous de Dieu, elle est par contre de vous. C'est le lien que tu fais avec le lien de Dieu qui vient, qui s'appelle, même la rencontre. Et il faut se détacher à l'esprit. L'esprit a toujours un effet de votre âge, lequel seront vécus intérieurement, parce que la vie est, n'est pas du vrai plaisir. C'est l'expression du vivre, c'est le mot de notre Seigneur, que nous nous apercevons. Je vais venir à éprouver ce que vous voulez. Les paroles que vous avez trouvées, je les ai demandées. Elles ont fait la grâce de la croix de mon Dieu.
Le verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie, vous êtes une vapeur qui disparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est dans les psaumes 39. Je suis pas pessimiste quand je parle toujours de la vie, des choses semblables. Au contraire, je suis optimiste. Mais le psaume 39, moi, il me frappe en plein cœur à chaque fois. Verset 5. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. C'est un peu rapport avec le, à ce qu'on disait au 14 tout à l'heure. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, l'homme n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agit de vêtements, et la mort, tu ne sais qui reculera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas le propre de l'infanté. C'est tout ça. Pour ça, je vois une chose semblable, moi. C'est vrai qu'on devrait pas jamais dire, demain, ce qu'on va faire demain. C'est toujours ce que Dieu dit, parce qu'on peut rien. Je vois pas un effet que Dieu s'est donné pour être là. Quand je vais avec Dieu, on propose l'histoire.
Deux volets, disons, l'intervention. Le premier, on a fait le pays, dans mon cas, c'était la première fois. Le groupe était quand même assez important. De cette visite, c'est durant un certain temps, il y a vraiment eu dans mon cas, les enfants, les gens qui étaient avec nous, même les enfants, il y a eu quelques minutes, parce qu'on était vraiment d'une intensité, là, déjà, la ville.
Donc
Vidal. Il a fait son intervention, puis je sais qu'il y avait eu un entretien qui était c'était son père, c'était sur le thème qu'on a apporté quelques jours, la famille des responsabilités, c'est tout de gens. C'était une belle décision. Les gens, peut-être, moi le premier, au début, je pensais que les murs, on pourrait aller. Non, les abeilles sont à part, ils ont leur vie, ils ont leur contexte. Qu'on a vu, c'est bien. Mais le message, il était là. Il était important. C'est malheureux que ceci n'était pas là. Ça se produira peut-être une autre fois. Ça, c'est la première partie. La deuxième, je ne veux pas être prétentieux non plus. Là. Ça fait avec les gens, plusieurs années, comme on a dit. On a des enfants. Il m'a fait quoi ce matin? C'est là qu'on a parlé des responsabilités. Il m'a fait la peine aussi à un étudiant de 50 ans avec des enfants. Je ne veux pas me servir juste de ça, la personne, mais ça prend des exemples. Je ne vais pas vous l'expliquer. Bien faire comprendre. Là, je disais, ça donnait des coups. Ça donnait des coups parce que les miens, ils sont dans la période de la période de l'enfant. C'est mes proches. Ils ne sont pas avec nous autres, justement. Justement, c'est bénéfique parce que c'est là que je l'ai dit, là, je ne veux pas être prétentieux pour le fait d'expérience que j'ai dans la vie de parents. Je remercie beaucoup, mais beaucoup de ce qu'on savoir. Les jeunes parents qui sont ici. Je remercie l'enseignement. Je remercie. C'est un exemple. Je comprends maintenant, monsieur Racine, que vous voulez avoir mes enfants. Je ne sais pas ce que je veux dire. Monsieur Sarlat, je vois l'idée. Il m'a envie. Et là, ça passe pas qu'on vieillit. Vous allez vieillir, mais je vous remercie du monde, parce que dans ma vie, à date, de parents, par exemple, j'ai des accrochages, j'ai mentionné vos familles, hein, ça l'a l'air. Ça va pas de traverse, mais ça va changer. Ça va changer pour ma famille. Mais c'est ça, c'est en vivant avec vous autres, et c'est vivant, on vieillit, il faut garder, on n'a pas trop trop parlé de traverse. Il faut garder ce que les autres font, c'est. Je vous regarde, là, dans ma vie à date, c'est la première fois que je suis en vacances. En 2008, c'est un jeu sans sommeil. J'avais eu des belles vacances. Et sans vacances, vous pensez ce que vous allez faire demain, ou après-demain, ça peut commencer. Je n'ai pas pensé une fois, hein. Il y a bien des gens qui commencent à dire, je n'ai même pas pensé, le jour en jour, ça monte, ça monte. Le jour avec l'enseignement. Ça va être la fin du jeu. Il y en a des jeunes qui les ont malades. C'est ça qu'on a le même moule. Et c'est ça qui m'a fait des questions. Alors, c'est quoi le moule? Je me dis que j'avais fait des enfants, de l'amour. Mais, je vois que le but, là, c'est une maladie. On suit. Parce que dans le but, la date, on est beau, on a eu, vous savez, je crois que ce jeune, il y a l'amour. L'amour de Dieu, alors que la vie, c'est un amour modifié. Il y a l'amour des enfants dans ce monde. Il quand tu rentres le dos, tu dis, je vais aller à cette place, tu dis, ben, c'est l'amour, mais je vous regarde, là, quand je vais les voir, c'est vraiment là, on va plus faire avec eux. Monsieur Rassel, je comprends. Ça prend, je comprends. À cause de ça, je comprends. Et là, nos responsabilités. Ils sont pas là, je suis pas comme ce matin, je suis pas là, et puis c'est responsabilité. Comme ça va faire, ça fait des années. Je suis pas prêt à mon beau-frère. Je suis pas prêt à mon beau-frère. Je suis pas prêt à mon beau-frère. Ça fait peur. Assez que, On a peut-être des fois la folie d'un bleu, mais quand on se marie, qu'on parle de la face, c'est ça que je fais. Il n'y a pas l'expérience. Il n'y a pas l'expérience. Vraiment, l'expérience. Il faut la faire, c'est ça que je fais. Et lorsque vous avez la joie, la chance de décider comme moi, de tenir un camp, c'est ça. Je ne veux pas prendre une parole de ce frère pour donner, de lui devancer, de lui montrer. Je ne suis pas obligé de m'enseigner ça. C'est important. Vous m'avez, à fin de mois, vous avez donné 10 mois, une période de recul, de l'établir. La première fois, je vois, j'ai repas à plancher ça sur ma main. Ça y a pas, j'ai 17 ans. Et je n'ai pas vu un parent, j'ai vraiment s'échappé de ce qu'on a envie de faire de voir dans une cabine. Ça me regarde pas. Mais je vois quand même, parce que j'en ai vu des gens dans d'autres situations, ils ont pas s'abandonner de demander sa part. Pas de temps, j'ai dit, voilà, tu vas m'y rencontrer, pas votre problème. Je n'ai pas vu de ça, je n'ai pas vu, j'ai dans des fois, ça faisait ça, il y avait quelqu'un qui s'est fait. On a une preuve. C'est pas plus beau qu'il y a, c'est ça. Les exemples, il n'y a pas personne qui s'est fait. J'en parlais pas longtemps, pas très, ça s'enchaîne tout dans une vie, là. J'ai pas eu de ça, il dit, mais hein, il y a eu Il y a eu, j'ai pas vu personne à lutter, en tout cas, j'ai pas su, j'en ai eu, je pense pas qu'on lutte. Il y a toujours un groupe, il y a pas quelque chose qui arrive. Il n'y a pas eu de ça, quelqu'un, il y a quelqu'un. C'est même quelqu'un-là qui est là pour vous, hein, ça. Il est là pour vous. Lâchez pas, je vous dis ça. Là, on fait ça comme lui. On fait le bien pour vous autres. Ça, en bref, comme ça, c'est là. Mais je vous dis, je veux pas être prétentieux, vous m'avez aidé. Vous nous avez aidé. Là, j'ai le goût de revoir mes enfants, parce que je crois que j'ai pas le goût, là. J'ai hâte de les revoir. Parce que là, si je fais encore des erreurs, pour les deux, au moins, m'avaient aidé à ne pas faire ça. Pour une fille, ça fait du bien. La frustrance, ça fait du bien. Comme ce matin, là. C'est pour ça que c'est un milieu sérieux, là. Il reste un tel du temps, je vous avais. C'est la même chose, là. Si je veux pas, si je me sens pas, pas moi, c'est pas important. Nous parlons. Absolument. Je veux vous en remercier. Vous nous avez aidés. Vous nous avez donné le goût de s'apprendre. Parce qu'il faut s'apprendre à un moment donné. Il faut avoir une période de recul. Ça, beau, ça m'a eu. Tension qui conduit avec les enfants. Ils existeront toujours. Mais si vous avez assez patience, vous allez en avoir une vie. Bon, bon, tu sais. Et à votre tour, un jour, vous allez, je vous espère, la chance d'avoir une expérience qui vous tient avec vous. Pour avoir une période de recul, qui est une expérience. C'est la même chose que nous autres, c'est ça. L'amour qu'on a. Ça pourrait être d'autres personnes, c'est l'amour que j'ai. C'est pas commencer des uniformes, des groupes. C'est l'amour que vous avez eu, que vous aimez. Ça nous a aidé. Ça rentre dans le thème. Alors,
on va dire que ça. Et je pense que ton visage a été attiré par ton regard. Deux fois les cabanes se regardaient. Il a vu ses yeux. Et puis moi j'étais bouleversé parce qu'il disait les mêmes choses. On était sur la même longueur. On n'avait pas encore rendu. C'était un vieux comme on l'a vu. Mais il n'avait pas encore même pris. Le thème du temps, on en a parlé après, n'est-ce pas, les comédies de la paix. Et c'était ça, le Seigneur nous montre, il parle aux autres, il parle aux autres, il parle par les autres, il parle par les autres, il dit la même chose. Il emploie qui il veut, et même s'il n'avait pas d'homme, il emploierait une année pour lui parler. Alors, c'est pas nous qui comptons, c'est le Seigneur. Et quand c'est la parole du Seigneur, vous devez dire à notre cœur ami, il n'est pas voilà, la personne. S'il est une robe, et s'il n'est pas drôle, c'est pas la personne. Et c'est ça qui nous dit. J'ai été touché, et il y aurait une foule d'autres choses que je pourrais vous dire de ce qui s'est passé cet après-midi, et où j'ai vu que l'Esprit de Dieu était là, et que cette visite, elle était attendue par lui. Alors nous aurions manqué le but. Ça, c'est ça, hein. Pécher, c'est manquer le but. Enfin, du péché par le but. J'ai bien aimé ce que j'ai dit, mais merci de partager avec nous. Ça se nous enrichit. Et puis, quand il disait à tous les jeunes, c'était beau, hein, vous savez, les belles, vous allez vieillir. Si vous allez être décrété, malgré tout le crédit sale qu'on se remet, ça va tomber quand même. On était sur les mêmes longueurs, non? Je vais parler de ces choses-là.
Alors ça fait du bien. Dieu est à l'œuvre. Et son esprit fait des choses. Il est tellement doux, Seigneur, qu'il ne peut pas avoir quelqu'un pleurer. C'est ce qui dit pleurer, c'est tout son cœur. Vous pouvez étudier à travers toute la Bible le thème des larmes, devant les larmes, c'est le cœur de Dieu. Quand ce sont vraiment des larmes de peine et de désir. Agar, une différence égyptienne. Agar, comme le monde des évangiles. Elle s'est tombée loin de Sarah. Agar, il l'a porté. C'est une servante égyptienne. Les larmes des différentes, Dieu les attend. Aussi bien que les larmes d'un roi comme Ézéchias, dont il a pleuré en demandant à Dieu sa guérison, le Seigneur lui a répondu à Dieu. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Oui, ça nous est difficile. C'est ça qui est difficile, l'Église. Faut pas compter seulement sur un prédicateur. Parce que c'est ça qui va fortifier les membres du corps de Christ. Parce que sans ça, alors, voilà, il y a des dans l'Église, on a une grosse tête, c'est le corps. C'est ça la grosse tête, c'est le corps de Christ. Pour tous les membres, quoi. Et alors, ça
me dit, comme je l'ai dans même temps que Jean, mon frère Jean, vient de parler, et je devrais dire que les jeunes que je vois aujourd'hui sont bénis d'avoir des parents chrétiens. Parce que vous savez, ici, Jean et ses enfants ne sont pas encore adolescents. Il est édifié de voir la façon dont vous éduquez vos enfants, la patience que vous avez. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Mais c'est pour vous encourager à continuer, à persévérer dans la bonne voie que vous avez. Moi, j'ai 52 ans, mon bébé est marié, et si j'étais à faire l'éducation de mes enfants, je me prendrais d'une façon différente. C'est vrai que quand mes enfants sont nés, quand nous avons fait l'éducation de nos enfants, nous étions pas chrétiens. C'est ce qui fait la différence. Si je vois en tout cas la patience que vous avez avec vos enfants, et quand M. Racine disait qu'on ne devait pas corriger nos enfants sur l'effet de la colère, ça m'est arrivé, hélas, trop souvent là. Beaucoup plus souvent de corriger sur l'effet de la colère que de corriger sur l'effet de la douceur. Et je devrais dire que je ne les ai jamais corrigés sur l'effet de la douceur, parce qu'une fois la colère passée, j'oubliais ce qu'il avait fait, puis c'est fini. Et ça reprenait un autre mauvais coup pour faire monter l'adrénaline, comme mon épouse dit. Puis là, ben, vous savez, puis c'était pas bien. Et continuez à exercer de la patience envers vos enfants, et c'est très bien. Le deuxième point, et j'ai essayé de m'en parler aussi ce matin, c'est l'expérience qu'il a faite avec son Jean-Bernard. Nous en avons fait une avec notre fille adolescente vieille. On était au Seigneur à ce moment-là. Jean ne vous racontait pas cette histoire, ça durait trop long, mais je peux vous dire qu'elle nous a boudé une première fois, une semaine, parce qu'on lui avait refusé d'aller habiter avec des collègues, des compagnes de classe au cégep de Sainte-Thérèse, sous le cégep du Négro Sainte-Thérèse. Jean nous a boudé une semaine de temps parce qu'on lui avait refusé d'aller vivre dans une maison, dans les maisons des écoles. Et quand la session a terminé, bon, ça a passé. L'autre session, avant que l'autre session recommence, le même scénario a recommencé. Nous avons refusé encore une fois, mais cette fois-là, la bouderie a duré beaucoup plus longtemps encore. Et puis, ça a encore passé. Et à l'automne, bien, on voulait quand même être des bons parents, on avait oublié l'affaire, et nous avons décidé de lui acheter une voiture pour l'aider. Bon, M. Racine, il n'a pas fait sa voiture, mais ils ont décidé de lui en acheter une, parce que c'était vraiment quand même assez pénible de voyager de Saint-François-Saint-Thérèse. Et savez-vous ce qui est arrivé? C'est qu'au cours de cette session-là, la deuxième, la chicane a pogné entre ses petites amies qui voulaient l'emmener, et elle est venue nous dire que c'était pas une bonne idée d'aller vivre dans la maison des études. Elle l'a reconnu. Et j'avais vraiment réfléchi à quand vous avez mentionné ça. elle l'a reconnu aujourd'hui. Et elle le reconnaît encore, cette épreuve qu'elle avait eue. Mais on peut rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné la force de persister, malgré que la bouderie avait duré la deuxième fois au-delà de 2 semaines. Vous savez que votre grand-fille qui est rendue à 20 ans, il ne vous parle pas, puis il rentre dans la maison, puis il claque la porte. Parce que c'est vrai que Françoise a dit qu'elle a cette ma fille a un père qui n'aime pas ce qu'on se dit. J'ai peut-être donné à ma fille, mais vous savez, j'aime pas ce qu'on se dit, mais ça m'arrive de comprendre le bon sens aussi. Si vous réussissez à me convaincre que je suis dans les patates, je vais vous donner raison avec les lignes. Ça m'arrive aussi de donner raison. Mais je ne suis pas venu pour vous dire tout ça. Le passage que j'ai beaucoup aimé ce matin, c'est qui nous amène à la réflexion aussi, c'est le verset 11 du chapitre 4. Ça dit, ne parlez point mal des uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge un frère parle mal de la loi et juge la loi. Et ce verset-là, il semble être très... ça semble pas important au premier abord, mais c'est beaucoup plus sérieux qu'on pense. Vous savez, parler mal de quelqu'un, j'ai l'impression que la médisance et la calomnie, ce sont des péchés qui sont jamais confessés. En tout cas, pour ma part, ça, vous savez, ce sont des péchés qu'on oublie de confesser parce qu'on ne croit pas l'importance de ces péchés-là. Et ça m'amène à vous reculer dans l'Ancien Testament, ou dans le livre de 2 Samuel. Parce que si on regarde dans le petit Larousse, juger, qu'est-ce que ça veut dire? Juger, ça veut dire imposer une sentence. Et on va lire dans 2 Samuel, au chapitre 4, excusez, 2 Samuel, chapitre 12. Une histoire de jugement qui était posée. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait qu'une toute petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et elle le regardait, il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis, ni à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il prit la brebis du pauvre, il l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et ce cher Nathan, c'est-à-dire David, il n'avait pas réalisé qu'il venait justement de se condamner. Parce que le verset suivant nous dit, et Nathan dit à David, tu es cet homme. Souvent, vous savez, quand on médite, on parle mal de quelqu'un, juger quelqu'un, ça veut dire imposer une sentence, et c'est beaucoup plus sérieux que de la médisance de la colonie, comme on pense des fois. Nos jugements vont très loin. Lorsqu'on nous parlons dans ce sens-là, c'est que c'est une sentence, souvent, que nous imposons aux gens, sans s'en rendre compte. Et c'est un verset qui est très sérieux, qu'on ne peut pas prendre à la maison.
Jacques 3, verset 13. Ça dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite et ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Le Seigneur m'a beaucoup parlé par ce verset-là. Peut-être que ça va être un petit peu sorti du contexte, mais c'est par une des références. Le Seigneur m'a parlé sur mon témoignage. Vous avez des gens autour de moi au bureau. Comment que des fois, vu que moi, tout le département en informatique connaît que je suis chrétien, ces gens-là me regardent, vous avez comment je réagis face à une décision à prendre, face à un problème, face à des choses que les gens font. Des fois, on n'est pas toujours en train de douceur et de sagesse dans ce qu'on fait. Que ce soit rien que des choses routinières, des fois, on n'est pas un témoignage. La référence que je vous parlais, c'est dans Matthieu 5:16. Ça dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est bien important parce que, comme M. Racine disait, ces gens-là nous regardent toujours la manière qu'on vit. C'est pas toujours le témoignage avec la parole de Dieu, les quatre pas pour mener au salut qui sauve quelqu'un. C'est souvent le témoignage personnel. La manière qu'on va réagir devant n'importe quoi, que ce soit un crash de disque ou n'importe quoi. Le Seigneur se sert des petites choses de chaque jour pour amener quelqu'un au Seigneur. Puis des fois, on n'est pas fidèle. Puis le Seigneur, il dit, je te redemanderai son sang. On est responsable des gens qui ont autour de nous. C'est ça que le Seigneur me parle de moi.
Je vous remercie d'avoir partagé ce que le Seigneur vous a montré et d'avoir eu cette franchise de pouvoir me dire les points sur lesquels vous avez pu être touchés. Et je sais bien que même ceux qui sont silencieux auraient eu quelque chose peut-être à dire, mais vous aurez encore la journée de demain et j'ai pu entrer en contact avec nos amis de Sainte-Brigitte, Jocelyne et Paul-André Dénommé, qui viennent de vivre dans ces derniers mois un véritable miracle. Ils seront là demain soir. Et je suis émerveillée de voir l'œuvre que Dieu fait dans le cœur de Paul-André et de Jocelyne. Paul-André s'était converti au camp de Jolibé, où l'avait amené un croyant, alors qu'il n'avait pas du tout envie de venir dans un camp, puis la parole de Dieu l'a saisi. Il s'est converti. Et là, il n'a pas traîné, il voulait être baptisé tout de suite. C'est un petit peu délicat. Puis on a été conduit quand même à penser pour le Seigneur qu'on ne pouvait pas lui refuser le baptême. Même qu'il allait rentrer chez sa femme, qui était, elle aussi, d'origine catholique, et lui-même avait un frère prêtre, et il y avait 3 enfants. Et alors, je ne vais pas vous raconter leur histoire, peut-être, je serai heureux qu'ils puissent voir votre témoignage. Eh bien, je demande à Dieu que leur passage parmi nous, ici, soit une édification pour eux, et que ce qu'ils entendront, ils affermissent eux aussi, je repartirai avec eux, j'irai coucher chez eux, dans leur ferme, demain soir, et ma femme viendra prendre mes affaires demain, samedi matin, de sorte que vous verrez ma femme. Maintenant, mes frères, on va terminer notre étude en disant encore quelques mots au sujet des pères et de leurs responsabilités. Pour vous parler directement de Paul. Paul, comme vous le savez, n'était pas marié. Certains pensaient qu'il était veuf. Tout cela ne nous est pas dit. Mais enfin, il a été choisi par le Seigneur pour le servir. Et il a annoncé l'Évangile depuis sa conversion. Et je voudrais vous lire dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, pour que vous puissiez voir comment il a été un père pour les âmes qu'il rencontrait. Chapitre 2 des Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, Vous vous souvenez qu'il avait été emprisonné dans cette première ville d'Europe, Philippe de Macédoine, où il a apporté l'évangile, et comment le Seigneur l'a fait sortir de prison par un tremblement de terre, après que Paul et Silas aient été battus. Alors il parle de cela aux Thessaloniciens. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Vous voyez que même si on reçoit des outrages, même si on est incompris, même si on est chassé d'une ville, et c'est ce qui était arrivé, eh bien, on prend de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de deux des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Bien, j'espère que vous avez pu reconnaître aussi que notre prédication dans ce camp ne reposait ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Et que, comme il le dit dans le chapitre précédent, notre évangile, verset 5, chapitre 1er, ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Vous savez, si on n'est pas convaincu que c'est vrai, faut pas prêcher. Mais si on est convaincu que c'est la vérité, et qu'on l'a expérimenté, qu'il y a dans notre vie une expérience qui confirme ces textes, alors on peut prêcher avec persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et alors, il avait donné un tel exemple à ces Thessaloniciens, que les Thessaloniciens étaient devenus les imitateurs de Paul, qui était lui-même un imitateur de Dieu. Ils étaient devenus des modèles pour les frères. Ils ne cherchaient plus de modèles chez leurs frères, mais ils étaient eux-mêmes un modèle. Et finalement, pour le monde entier, ils étaient devenus des témoins de l'évangile. Il est dit qu'on n'avait pas même besoin de parler de leur foi, parce que leurs œuvres étaient manifestes. Votre foi, dans le monde entier, on n'a pas besoin d'en parler, parce qu'elle est connue. C'est le monde qui raconte à notre sujet quel accès nous avons eu, verset 9, chapitre 1er, auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Puis ensuite, alors, il rappelle aux Philippiens comment il a combattu au milieu d'eux, verset 4 du chapitre 2. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, et j'espère que vous avez aussi réalisé que nous n'avons pas cherché à vous plaire. Je vous aime, ça c'est une autre affaire. Mais chercher à vous plaire, je sais qu'il y a longtemps que le Seigneur m'aurait repris. Si je cherchais encore à plaire à des hommes, je ne serais plus l'esclave du Christ. Je n'ai pas cherché à vous plaire, ni à me faire aimer. Ce n'est pas cela mon but. Nous vous avons prêché non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde les cœurs, et le mien et le vôtre. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, si nous avions quelque chose à vous dire, nous vous l'avons dit. Et nous vous l'avons dit même avec force. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous ne sommes pas ici pour de l'argent. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres du Christ. Ça c'est Paul qui parle. qu'il avait vu le Seigneur dans la gloire. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Et j'espère que cette douceur de Christ, vous l'avez ressentie. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Là, moi, je trouve cette expression de Paul admirable. Paul, un célibataire, ou un veuf, peu importe, mais un homme seul, eh bien, il a compris ce qu'il devait être auprès des plus jeunes qui devaient se tourner vers le Seigneur. De même qu'une nourrice prend un tant soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore, quoi? Nos propres vies. C'est quelquefois le souci de ma femme, elle dit, il tiendra pas. Mais c'est pas ça. Ma vie est pas entre les mains de ma femme, même si elle est médecin, ma vie est entre les mains du Seigneur. Mais que de fois on m'a dit, vous ne tiendrez pas. Mais le Seigneur me tient. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un homme qui m'a salué à Saint-Benoît-du-Lac quand on attendait le portier. C'est un pasteur. Il me dit alors, vous êtes en forme. C'est une chose que j'abomine qu'on me dise. Être en forme. J'ai dit, je demande que le Seigneur soit en forme. Mais on voudrait toujours qu'on soit en forme. C'est être en forme. Le jour où je me sens en forme, ça ne va pas. Mais le jour où je me sens faible et que je me confie au Seigneur, il manifeste ça. Mais il ne donne pas sa gloire à lui. Se sentir en forme, c'est pas ça qui compte. C'est dire, Seigneur, que ta forme se manifeste. Parce que lui, il a été sans forme sur la croix. Comment est-ce que j'ai été sauvé? J'ai été sauvé quand Jésus était sans forme. Souvenez-vous, on pourrait dire, quand on entend le sermon sur la montagne, Jésus avec des foules autour de lui, puis il prêche ce sermon merveilleux. Alors on dit, ah, c'est Jésus de Nazareth, hein, il était en forme. Au sermon sur la montagne, il était en forme. Avec ses images, le fou sur le sable a bâti sa maison. C'est fantastique, le Seigneur était vraiment en forme. Puis vous le prenez encore, quand il multiplie les pains, il est vraiment en forme. Vous le prenez encore dans le chapitre 23, quand il dénonce l'hypocrisie religieuse. Il leur dit, pharisiens hypocrites, pharisiens menteurs, pharisiens sépulcres blanchis, et puis bien d'autres choses. Il est en forme, hein. Mais qu'est-ce que ça a donné? Il le savait lui-même. Ma parole n'a pas d'accès auprès de vous. Et quand il a fini la dernière journée de sa vie, il a pleuré. Et il a dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant leur péché demeure. C'était plus les foules qui étaient autour de lui. Vous n'êtes pas sauvés par un Jésus en forme. C'est pas par la vie de Jésus que vous avez été sauvés. C'est par quoi? Par sa mort. Comprenez-le bien. Parce que si Jésus n'avait donné qu'un exemple de vie, nous serions tous perdus, et cet exemple, il est inimitable. Mais pour que sa vie devienne la nôtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné. Et c'est là que vous le voyez sans forme sur la croix. Il n'a ni forme, ni éclat quand nous le voyons. Il n'y a aucune apparence en lui pour nous le faire désirer. Ses mains qui guérissaient, elles sont maintenant clouées. Ses pieds qui le déplaçaient de lieu en lieu pour apporter la délivrance à ceux qui en avaient besoin, on les a cloués pour qu'ils ne puissent plus marcher. Et puis, ses pensées qu'il exprimait avec tant de grâce, eh bien, on l'a couronné son front d'épines pour qu'il n'ait que souffrance. Sa sueur sanglante est là encore sur son visage. Il y a même les crachats qui lui ont été jetés. Et puis, il est là, pendu, dans cette position horrible d'un crucifié. Vous savez, quelquefois, quand on voyait des crucifix, ça montre guère ce que c'était qu'être crucifié. et toute cette tension du corps, et cet étouffement, cette suffocation, les souffrances de Jésus. Et puis, au lieu de ne penser qu'à lui, il ne parle que des autres. Il dit, voyant ses bourreaux qui le clouent, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Et puis, ce ne sont que des paroles d'amour. Du haut de sa croix, tout à coup, il voit Marie, sa mère, et ses femmes qui l'ont suivi depuis la Galilée. Il voit Jean, ce disciple bien-aimé, le frère de Jacques, et puis il dit, « Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. » Il ne pense qu'aux autres. Puis tout à coup, à ses côtés, il y a là un brigand. Il a deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. C'est pas Jean et Jacques, ce sont des brigands. Alors, il y en a un qui lui dit tout à coup, en se repentant, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus se tourne, oublie sa souffrance, il se tourne vers cet homme. Et il lui donne cette parole. En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux. Voilà mon sauveur. Quand il est sans forme, il est là sur la croix. En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Puis tout à coup, c'est les ombres en plein midi, depuis la sixième heure qui est midi jusqu'à la neuvième heure qui est trois heures de l'après-midi. Il y a une éclipse totale, et c'est dans la nuit qu'on entend cette voix du crucifié. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben vous savez pourquoi. C'est à cause de lui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Puis tout à coup, il s'écrie, j'ai soif. Il a soif. Et on l'abreuve de vinaigre. Et finalement, un grand cri, tout est accompli. Et c'est fait, hein. Tout est accompli. Et alors, il peut donner la dernière parole, la septième. Il baisse la tête en disant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et puis, c'est la grande détente. Il est mort. Il est mort. Il était en forme de Dieu. Maintenant, il est là, sans forme, sur la croix. C'est par sa mort que je suis sauvé. C'est par sa mort que vous êtes sauvé. Mais il n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. Il est le vivant. Alors ne me parlez plus de notre forme. Pensez au Seigneur. Et voyez comme l'apôtre Paul avait bien compris cela. Verset 6 du chapitre 2 auquel je reviens. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité, mais nous avons été pleins de douceur. De même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. C'est ça que Jésus a fait. Tant vous nous étiez devenus chers, vous vous rappelez, frère, notre travail, notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour ne prendre la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. C'est là que je voulais arriver. Je m'excuse d'avoir eu un moment de difficile, mais c'est là, se retrouver ce verset. L'apôtre Paul dit que il a été pour les Thessaloniciens ce qu'un père est pour ses enfants. Alors, étudiez maintenant pour vous-même, comme je vous l'ai dit, méditez sur certaines vies qu'on vous a citées et vous verrez ce qu'un père doit être pour ses enfants. La vie de l'apôtre Paul nous montre ce qu'un père peut être pour ses enfants. Nous avons été pour vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa propre gloire. nous nous arrêterons là. Et vous le savez, si vous voulez étudier davantage ce que Paul a été pour certains de ces jeunes convertis, je pense spécialement aux épîtres qu'il a écrits à son enfant dans la foi, Timothée, qui était d'une mère juive et d'un père grec, et il a été amené à la foi par l'apôtre Paul, et Paul l'appelle « mon enfant dans la foi, Timothée ». Et c'est en étudiant ainsi que vous, les pères, vous comprendrez votre responsabilité pour vos enfants, selon la chair, et que vous comprendrez aussi le privilège qui vous est donné de pouvoir vous donner à vos enfants et vous donner d'une façon complète, d'une façon totale, d'une façon qui irait jusqu'à donner votre vie pour vos enfants, pourvu que vos enfants vivent et vivent à la gloire de Dieu. Et en entendant un de nos frères qui a parlé, je pensais encore au même exemple que Jean, l'apôtre nous donne, et c'est le dernier verset, au chapitre 2 de la première épître de Jean. Jean écrit ceci, verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Eh bien, ce qui doit nous caractériser, nous les pères, qui avons des responsabilités pour les enfants, c'est une connaissance du Seigneur, une connaissance personnelle. Cultivez, chers amis, pères, qui vivez aux côtés de vos compagnes, cultivez votre relation avec le Seigneur. Et vous, mères, qui n'avez peut-être pas de père à vos côtés, apprenez à connaître celui qui peut vous rendre dans votre solitude présente, père et mère. Vous êtes mère, mais il peut vous donner la force d'un père pour l'instant. Croyez-le. Et vous qui êtes père et qui n'avez peut-être pas une mère à vos côtés, et l'intelligence d'un père pour vous conduire. Tout cela, vous ne le trouverez qu'en Jésus, qui nous a montré lui-même par cette parabole que je vous ai citée dans Luc 15, ce qu'était un vrai père pour son enfant. Un père qui ne peut pas forcer les choses. Quand l'un de ses deux fils lui dit, « Père, donne-moi le bien qui doit me revenir. » Le père n'enferme pas son fils. Il leur distribue ses biens et le fils s'en va. Il vit dans la débauche. Il déshonore le nom du Père. Il fera certaines expériences douloureuses. Mais le Père, ses sentiments pour son fils n'ont pas changé. Il continue à attendre son retour. C'est ça que le Seigneur nous a montré. Un Père, c'est un homme qui attend le retour de son enfant. Que ce soit une fille, que ce soit un fils. Il ne désespère pas. Et quand l'heure est venue, que le fils a fait certaines expériences, qu'il a tout dépensé, que personne ne lui donne rien, tout à coup, alors qu'il est au milieu des pourceaux. Il rentre en lui-même. Et c'est cela dont nous avons besoin ce soir peut-être, que chacun de nous rentre en soi-même. Quand on rentre en nous-mêmes, nous découvrons que nous avons un Père. Que peut-être nous nous sommes éloignés de ce Père. Eh bien, revenons vers ce Père, qui est notre Dieu et qui nous attend. Nous avions peut-être perdu le premier amour. Revenons vers lui. Et en lui, nous retrouverons tout ce que nous avions perdu, et plus encore. Car quand le fils prodigue est revenu, ayant tout préparé dans son esprit pour dire à son père son regret, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires », il n'a pas le temps de dire cela. Le Père qui regarde toujours du côté d'où le Fils pourrait revenir, voit un mendiant qui s'approche, et sous les guenilles de ce mendiant, son cœur discerne son pauvre Fils. Et c'est lui qui court à sa rencontre, qui le presse sur son cœur, qui dit « Mon Fils, que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Aucun reproche, seulement la joie. Et c'est lui qui transforme tout, qui dit à ses serviteurs, mettez-lui un anneau à son doigt, revêtez-le de la plus belle robe, mettez des sandales à ses pieds, tuez le veau gras, mangeons et faisons bonne chère. Je ne vous parle pas du fils aîné, mais je vous laisse avec le souvenir de l'amour du Père pour le Fils qui est revenu. Dieu notre Père, nous nous souvenons que Jésus sur la terre nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » À la fin de ce camp, nous voulons te demander qu'avec la puissance de ton esprit, tu nous permettes de repasser dans nos cœurs ce que nous avons vécu et que l'œuvre commencée par ton esprit, tu l'achèves dans tous les cœurs. Cœur de nos sœurs, quelle que soit leur situation, le cœur de nos frères, dont tu connais l'existence la plus secrète, que tu agisses dans les couples, pour les unir, les réunir, et que tu nous donnes à tous de retrouver notre premier amour. Et même si nous arrivons au temps de la vieillesse, accorde-nous la grâce de rester dans cette jeunesse éternelle que donne la vie même de Jésus, pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.